En tout cas pour moi d'être là devant vous, je vous transmets les salutations de l'église de Carpentras et je vais vous poser une question. On a parlé de reconnaître les bontés de Dieu, de voir comme elles sont nombreuses. Et moi je vais vous poser la question, comment ça se passe quand vous ne les voyez pas? Quand vous êtes tellement accablé par tout ce qui vous pèse, tout ce qui vous fait souffrir, que vous ne voyez même plus Dieu dans votre quotidien. Alors il y a différents types de souffrances. Il y a la souffrance quand on va faire le plein à la pompe. Il y a la souffrance quand je me cogne le pied contre le coin du meuble le matin. Il y a la souffrance de perdre une amitié. La souffrance de perdre un être proche. La souffrance de la maladie. Bien d'autres. Qu'est-ce que je fais dans ces cas-là? Quelle doit être mon attitude en tant que chrétien, confessant le Dieu Tout-Puissant, le Seigneur Jésus mort et ressuscité pour mes péchés? Quelle devrait être notre attitude face à tout ça? C'est ce que Pierre nous propose de voir ce matin, et c'est ce qu'on va voir ensemble. Je vous propose qu'on lise les premiers versets de 1 à 6. Après, on va se permettre une petite folie. On va passer du verset 9 jusqu'au verset, verset 11 jusqu'au verset 19. Et puis, on reviendra vraiment au cœur du message, verset 7 à 11. Donc je vais vous lire dans 1 Pierre chapitre 4 et je vais commencer à partir du verset 1er. Donc 1 Pierre 4, 1. Ainsi donc, puisque Christ a souffert pour nous dans son corps, vous aussi armez-vous de la même pensée. Celui qui a souffert dans son corps en a fini avec le péché, afin de ne plus vivre en suivant les désirs des hommes, mais la volonté de Dieu pendant le temps qui lui reste à vivre ici-bas. C'est déjà bien suffisant d'avoir par le passé accompli la volonté des non-croyants en marchant dans les désordres, les convoitises, l'ivrognerie, les orgies et autres beuveries, ainsi que dans les idolâtries criminelles. Aussi trouve-t-il étrange que vous ne vous précipitiez plus avec eux dans le même débordement de débauche, et ils vous calomnient. Ils rendront des comptes à celui qui est prêt à juger les vivants et les morts. En effet, l'Évangile a aussi été annoncé aux morts, afin qu'il ait été jugé comme tous les hommes ici-bas, ils vivent selon Dieu par l'Esprit. On va s'arrêter là, réfléchir un petit peu à ces quelques versets. Je me permets de me moucher en attendant. Notre chapitre donc s'ouvre par ces quelques mots. Puisque Christ a souffert pour nous dans son corps, vous aussi armez-vous de la même pensée. C'est-à-dire, tenez-vous prêt à combattre. Prêt à combattre quoi? Prêt à combattre comme Christ. Pardon, comment? À combattre comme Christ. Lui qui a souffert dans son corps, à cause de mon péché, avait décidé d'aller jusqu'au bout. On l'a dit pour dire tout est accompli à la croix. Mais de même, nous aussi, nous devons nous armer dans notre corps pour tenir ferme. Pour tenir ferme devant tout ce qui peut se passer devant nous. Que ce soit mon propre péché, comme la souffrance qui m'entoure. Et le texte nous dit qu'on tient ferme pour accomplir la volonté de Dieu. Pierre en dit plus dans l'Épître, au chapitre 2, verset 15, il dit « En effet, la volonté de Dieu, c'est qu'en pratiquant le bien, vous réduisiez au silence l'ignorance des hommes dépourvus de bon sens. » Chapitre 3, verset 17, « En effet, il vaut mieux souffrir si telle est la volonté de Dieu en faisant le bien qu'en faisant le mal. » Chapitre 2, verset 4, « Afin de ne plus vivre en suivant les désirs des hommes, mais la volonté de Dieu pendant le temps qui lui reste à vivre ici-bas. » Et enfin, verset 19, on verra tout à l'heure. « Ainsi que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu s'en remettent à lui comme au fidèle Créateur en faisant ce qui est bien. » Pour Pierre, faire la volonté de Dieu, c'est accomplir le bien, peu importe ce qui se passe. Peu importe la situation dans laquelle je suis. Que je sois dans la joie, ce qui est facile de faire le bien quand on est dans la joie, comme quand je suis dans la souffrance. Nous sommes libres, affranchis du péché, ça veut dire que je ne suis plus obligé dans mon corps et dans mon cœur d'être soumis au péché, de ne plus vivre dans mon ancienne façon de vivre. Et c'est ce que Pierre dit. Avant, vous vous livriez à la débauche, l'ivrognerie, les orgies. On pourrait en rajouter, la violence, l'alcool, la pornographie. Bref, Avant, je cherchais ma joie dans tout ce qui n'était pas Dieu. Et c'est vrai que lorsqu'on se convertit, que ce soit d'une façon qui soit vraiment extraordinaire, c'est-à-dire que voilà, on vivait vraiment dans une débauche incroyable, ou qu'on ait grandi depuis toujours avec la présence de Dieu autour de nous, il y a un changement qui s'opère en nous, qu'il soit flagrant ou non, Dieu opère un changement dans nos cœurs. Et ce changement, il se répercute dans ma façon de vivre. De dire peut-être de refuser certaines personnes, de refuser peut-être une amitié, peut-être une sortie, peut-être de dire, ben voilà, ça je peux pas le dire. Donc critiquer, la médisance. On est appelé à toutes sortes de choses. Et mon comportement, il doit trancher avec le comportement de ceux qui m'entourent. Ce qui va entraîner la calomnie. C'est ce que Pierre dit. Notre comportement, notre façon de vivre doit forcément entraîner une différence. Et bien souvent, quand on parle de la souffrance, on parle de différentes épreuves qui nous sont réservées, comme la maladie. Mais être chrétien va m'amener à souffrir du rejet de l'autre. De, quand je me revais de Christ, forcément c'est que je me dévais de mon ancienne façon de vivre. Et les gens vont me juger. Tiens, mais pourquoi t'agis comme ça? Pourquoi tu t'obstines à croire? Pourquoi tu essaies de faire l'intéressant en te démarquant des autres? C'est ça, la souffrance qu'on est appelé à vivre. On parle souvent de l'Église persécutée. Et c'est vrai que quand le régime est contre l'Évangile, c'est difficile. Et nous, on a le privilège d'être dans un pays qui est quand même assez libre. Mais pourtant, notre façon de vivre devrait nous emmener à être calomniés. Et dans notre société qui prône la tolérance, qui prône l'acceptation de l'autre, qui prône l'inclusion, lorsque je partage l'Évangile, lorsque je suis ferme dans mes positions en tant que chrétien, dans le meilleur des cas, on est traité de prosélyte, d'excentrique, voire même de rétrograde. Mais pourtant, c'est ce que nous devons être, et pas ce que nous devons faire. L'Évangile a été annoncé à ceux qui sont morts afin d'être jugés comme tous les hommes ici-bas, pour vivre par Dieu, par l'Esprit. Ce meurtre traduit, c'est pour cela d'ailleurs que la bonne nouvelle a été annoncée à ceux qui maintenant sont morts afin qu'après avoir subi la même condamnation que tous les hommes dans leur corps, ils vivent selon Dieu par l'Esprit. Nous étions morts, maintenant nous vivons. Nous vivons pour Dieu, pour sa gloire, pour son plaisir. Mais ça va entraîner de la souffrance. La souffrance, elle est une conséquence du péché. Vous êtes d'accord avec ça? Et elle est aussi un moyen que Dieu utilise pour nous transformer. Il ne faut pas voir la souffrance comme quelque chose de mauvais, même si, il faut être honnête, quand on est dans le mal, on voit ça comme quelque chose de mauvais. Et pourtant, Dieu veut se servir de ça, de ses persécutions, de ses souffrances, pour nous transformer, pour nous rendre davantage fidèles à lui. Et c'est ce que Pierre va développer dans le verset 12 à 19, dans les versets, pardon, 12 à 19, il dit ceci, « Mes bien-aimés, ne soyez pas surpris de la fournaise qui sévit parmi vous pour vous éprouver, comme s'il vous arrivait quelque chose d'étrange. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous prenez aux souffrances de Christ, afin d'être aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire sera dévoilée. Si vous êtes insultés à cause du nom de Christ, vous êtes heureux parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Eux, ils blasphèment l'Esprit, tandis que vous, vous lui rendez gloire. Que personne parmi vous n'ait à souffrir pour avoir tué, volé, fait le mal ou s'être mêlé des affaires d'autrui. Mais si quelqu'un souffre parce qu'il est chrétien, qu'il n'en ait pas honte. Au contraire, qu'il rende gloire à Dieu dans cette situation. En effet, c'est le moment où le jugement commence, où il commence par la maison de Dieu. Et si c'est par nous qu'il débute, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'Évangile de Dieu? Et si le juste est sauvé avec peine, que deviendront l'impie et le pécheur? Ainsi, ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu s'en remettent à lui comme au fidèle Créateur en faisant ce qui est bien. Qui a déjà dit merci Seigneur de la souffrance? Merci Seigneur parce que c'est bon. Personne. Pourtant, c'est ce que Pierre nous dit. Alors, on n'est pas appelé à être des masos qui demandent à souffrir. Mais lorsque nous souffrons, c'est une grâce que Dieu veut nous faire pour nous transformer, pour nous apprendre à dépendre de lui. Il peut arriver qu'on souffre par des situations que nous avons provoquées. Parce que je me suis mêlé des affaires d'autrui, parce que ben, des fois mon caractère, ben, ça frite un peu avec ceux qui sont à côté de moi. Au boulot, qui ne s'est jamais pris la tête avec un collègue, qui ne s'est jamais pris la tête avec un ami, parce qu'on divergeait sur une façon de voir les choses. Et bien souvent, ça crée des tensions, et on souffre. Et c'est notre faute. La souffrance dont Pierre parle là, c'est cette fameuse souffrance, parce qu'on appartient à Christ. Cette souffrance qui m'amène à dire, Seigneur, pardon. Seigneur, merci, parce que tu veux nous amener plus loin. Nous nous sommes appelés à être artisans de paix. Donc à ne pas souffrir parce que nous faisons le mal, mais lorsque nous faisons le bien et que nous souffrons quand même, Dieu veut nous transformer. C'est à cause de notre foi que nous devons souffrir. Elle produit chez ceux qui nous entourent, on l'a vu dans les versets d'avant, un rejet. Parce que souvent on cherche à être aimé, on cherche à être accepté par les autres. Est-ce que nous nous rendons compte que nous sommes acceptés par la personne la plus grande et la plus importante qui soit, le Dieu Tout-Puissant? Jésus dit ceci dans Matthieu 5, « Heureux serez-vous lorsqu'on vous insultera, qu'on vous persécutera, qu'on dira faussement sur vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Si quelqu'un souffre parce qu'il est chrétien, qu'il n'en ait pas honte. Au contraire, qu'il rende gloire à Dieu dans cette situation. » À l'époque de l'Église primitive, être chrétien, c'était quelque chose de péjoratif. Un petit Christ. C'était quelque chose qu'on utilisait pour se moquer des chrétiens. Et nous, aujourd'hui, on le revêt fièrement. En disant, oui, je suis chrétien, je l'affirme, je le confesse. Et pourtant, on se servait de ça pour rabaisser les autres. Lorsque Dieu me fait passer par des vallées sombres, que ce soit à cause de mon témoignage ou... parce que simplement, des fois, voilà, je traverse des moments difficiles. Quelle est votre attitude? Est-ce que ça vous met à terre? Est-ce que ça vous accable? Ou est-ce que vous êtes prêt à dire, Seigneur, merci, parce que tu es là? Est-ce que vous êtes prêt à changer votre fusil d'épaule et dire, Seigneur, même si je traverse cette vallée de l'ombre de la mort, tu es avec moi? Nous devons apprendre, en tant que chrétiens, mais ce que je dis, c'est pas facile. À ne pas être écrasé, à ne pas être abattu, mais être toujours dépendant de notre Dieu. Et si nous, qui sommes enfants de Dieu, Dieu permet que nous soyons éprouvés, combien sera plus grande la sanction de ceux qui ne le connaissent pas? Nous devons nous remettre à lui. Peu importe ce qui se passe, parce que notre rôle sur terre est de glorifier Dieu et de lui rendre gloire continuellement. Mais où est-ce que je peux trouver ce réconfort? Où est-ce que vraiment, voilà, on va parler honnêtement, lorsque je suis dans la souffrance, je me replie sur moi. J'ai du mal à crier à Dieu. J'ai du mal à dire, Seigneur, viens à mon secours. C'est une réaction pleinement humaine de se replier sur soi. Et pourtant, il devrait y avoir un endroit où même si je souffre, ou même si je suis affligé par la plus grande des peines, je peux être restauré, je peux être encouragé. Et c'est dans la présence de Dieu, certes, et amen, gloire à Dieu, mais c'est aussi et avant tout dans l'Église. Est-ce que ce que Pierre dit, la fin de toute chose, verset 7, pardon, est proche, soyez donc sages et sobres afin de vous livrer à la prière. Avant tout, ayez un amour ardent les uns pour les autres, car l'amour couvrira une foule de péchés. Exercez l'hospitalité les uns envers les autres sans murmurer. Comme de bons intendants des diverses grâces de Dieu, mettez chacun au service des autres le don qui vous a été reçu. Si quelqu'un parle, qu'il annonce les paroles révélées de Dieu. Si quelqu'un accomplit un service, qu'il le fasse avec la force que Dieu communique afin que quand tout, pardon, Dieu reçoive la gloire qui lui est due au travers de Jésus-Christ. C'est à lui qu'appartient la gloire et la puissance au siècle et des siècles. Amen. Alors si on prend ça, sorti de son contexte, on peut dire que c'est super, mettre ses dons au service de l'Église, c'est une bonne chose. Mais on a vu qu'avant et après, ça parle de souffrance. Elle est où la corrélation ? Malgré la souffrance que je vis, malgré les épreuves que je vis, rien ne doit m'empêcher de servir dans la communauté. De servir dans l'Église. J'ai vu que vous avez un planning de service. C'est une bonne chose. Ce que je vis. Et bien souvent, quand on vit des souffrances, on a envie de tout couper, de plus voir personne. En tout cas, moi, je réagis comme ça. Mais pourtant, j'ai même du mal à prier. Et pourtant, ce que Pierre dit, c'est que malgré la souffrance, je dois mener une vie qui me permette d'être toujours disponible et disposé à prier. Au chapitre d'avant, il dit même au couple que des fois, voilà, de s'abstenir de certaines relations pour se consacrer à la prière. La souffrance ne doit pas être un frein, la peine ne doit pas être un frein à prier, à passer du temps à chercher la face de Dieu. Vivre une vie sobre et sage. C'est-à-dire éliminer, nettoyer mon quotidien de tout ce qui pourrait m'empêcher d'être en communion avec Dieu. Et ensuite, il ajoute, ayez un amour ardent les uns pour les autres. La souffrance que je vis, elle ne doit pas m'empêcher d'aimer mon prochain. Elle ne doit pas m'empêcher d'être ce témoin fidèle qui partagent l'amour de Dieu. Exercer l'hospitalité les uns envers les autres sans murmurer. Est-ce que vous avez les uns pour les autres un amour ardent ce matin ? Est-ce que vous êtes content de vous voir ? Et au-delà de ça, est-ce que vous vous aimez les uns les autres ? Et c'est vrai que, voilà, les affinités font que on est plus proche avec certains qu'avec d'autres. Et bien souvent, on se sert de ça pour déculpabiliser un petit peu. On se dit, j'aime quand même au moins la moitié des frères et sœurs. C'est déjà pas mal. Ayez un amour ardent les uns pour les autres, pour tous. Et cet amour couvrira une multitude de péchés. On va pas se mentir, il n'y a pas que des agneaux dans l'Église. On vit ensemble, on marche ensemble, on se blesse les uns les autres, on se fait du mal, que ce soit volontairement ou pas. Mais on doit apprendre à se pardonner les uns les autres, on doit apprendre à s'aimer les uns les autres et à voir que le frère qui est assis à côté de toi, il est tout autant pécheur que toi. Et je sais combien c'est difficile de vivre ensemble, de vivre avec peut-être des gens qui n'ont peut-être pas la même soif que toi d'avancer, le même désir que toi de vivre l'Évangile pleinement. Comment on fait dans ces cas-là ? Je me posais beaucoup de questions dans lesquelles je n'ai pas la réponse. Peut-être un jour je les aurai, mais ce n'est pas encore le cas. Quant à moi, on marche dans une église où il y a deux vitesses. Des gens qui ont envie, des autres qui sont bien comme ils sont. Réponds à cette question, Paul. Moi non plus. Aimons-nous les uns les autres. Aimons-nous les uns les autres. Aimons-nous tels que nous sommes. Et je sais combien c'est difficile. Mais pourtant, c'est ce que le Seigneur nous appelle à faire. Pierre parle de deux dons. Un don de parole et un don de service. Peu importe le don que vous avez, Dieu vous a communiqué des dons. Peut-être que ce n'est pas forcément de jouer comme Bernardo du piano de folie ou de pouvoir être un grand orateur. Mais je vois que vous avez une case de ménage dans votre planning de service. Et c'est tout aussi important d'avoir un lieu de culte accueillant que d'entendre une bonne prédication ou d'une bonne louange. Ce que vous faites, faites-le pour la gloire de Dieu. Que ce soit le service, que ce soit de préparer un repas chez vous pour un frère ou une sœur, pour vos conjoints, que ce soit d'être simplement au travail, Est-ce que quand vous êtes au boulot, vous dites, voilà, là maintenant je suis en train de glorifier le Seigneur par mon attitude? Quand vous êtes en cours, est-ce que vous dites, ah ouais, là je suis en train de glorifier le Seigneur, là ça, c'est bon. Nous avons toujours une occasion de glorifier Dieu, de lui rendre grâce. Peu importe ce que je traverse, peu importe où je suis, mon but, mon désir, c'est de glorifier Dieu. Comment est-ce que je peux finir ce message? On vous accroît, Jean. Peu importe la souffrance dans laquelle vous êtes, peu importe le défi que vous traversez aujourd'hui, Dieu est là. Dieu vous accompagne. Dieu ne vous a pas laissé tomber. Dieu veut vous accompagner dans votre souffrance, dans votre questionnement. Et Dieu veut que vous le glorifiez. Vraiment, que le Seigneur nous aide ce matin, moi le premier, à pouvoir en tout temps, en toutes circonstances, dire Seigneur, aide-moi à te glorifier maintenant. Je vous invite à prendre un petit temps de silence, puis je terminerai par la prière. Seigneur, merci parce que peu importe ce que tu nous fais traverser, ce que tu permets dans nos vies, Seigneur, tu es là, tu ne changes pas. Et lorsque nous regardons cette croix qui est vide, Seigneur, nous ne pouvons être que reconnaissants que tu n'y es plus parce que tu es à mes côtés, Seigneur, parce que tu es aux côtés de chacun d'entre nous, Seigneur. Merci parce que tu veux créer dans l'église de Cavaillon et dans toutes les églises, Seigneur, ce lieu de ressourcement où chacun peut déverser son cœur, mais aussi te servir, te glorifier, peu importe ce qu'il vit. Que chacun puisse s'équiper, chacun puisse grandir, parce que tu veux nous amener toujours plus loin, Seigneur. Tu veux nous transformer, tu veux nous modeler à ton image, Père. Et vraiment que tu puisses nous accompagner, chacun individuellement, et aussi en tant que communauté, à grandir et à être ce peuple qui te glorifie dans chaque chose, Seigneur. Dans les petites choses comme dans les grandes choses, Seigneur. Alors, viens à notre secours, nous avons tellement besoin de ton aide, Père. Je te prie dans le nom de Jésus. Amen. Oui.